Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, je vous offre deux constellations pour le prix d'une. Nous allons parler du serpent, la seule constellation du ciel qui soit en deux parties. Le serpent est une constellation qui représente le serpent dompté par le serpentaire. C'est la seule constellation divisée en deux parties. La tête et la queue du serpent sont séparées par l'interposition du serpentaire. Mais leurs étoiles sont nommées comme si elles faisaient partie d'une zone contiguë. Et la désignation génitif serpentis est utilisée pour toutes les deux. La tête du serpent se trouve principalement dans l'hémisphère céleste nord et la queue du serpent essentiellement dans l'hémisphère céleste sud. Aucune des étoiles du serpent n'est plus brillante que la troisième magnitude, ce qui rend la constellation assez difficile à discerner. Le serpent est une constellation ancienne, bien que sa symbolique première soit inconnue. Étant donné son positionnement coupé en deux par le serpentaire, il se pourrait que le serpent soit celui qui révéla à Asclépios le secret de la médecine. Asclépios est le fils d'Apollon, mais les sources quant à sa mère sont très divergentes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est mortelle, et qu'elle a abandonné son fils qui a été confié au centaure Chiron, qui lui enseigna l'art de guérir. L'enfant se montra bon élève. Et un jour, Héna lui donna le sang de Gorgo, à l'aide duquel il put rappeler les morts à la vie. Hyginus prétend qu'Asclépios, se trouvant dans la maison de Glaucus, qui était dangereusement malade, vit un serpent venir à lui et se rouler autour de son bâton. Asclépios le tua. Mais alors vint un autre serpent, qui, avec une certaine herbe qu'il portait dans sa gueule, rappela à la vie le serpent tué. C'est ainsi que, selon Hyginus, Asclépios apprit à connaître l'herbe avec laquelle il ressusciterait les morts. C'est ce serpent, ressuscité par un de ses congénères, qui est depuis représenté sur le bâton des médecins, l'esculape. À ne pas confondre avec le caducée, le rameau d'olivier où s'enroule non pas un, mais deux serpents, et qui lui est l'attribut d'Hermès. À ne pas confondre non plus avec la coupe d'Hygie, autour duquel s'enroulent deux serpents, mais qui, elle, est le symbole des pharmaciens. C'est sans doute le serpent de l'Esculape qui est représenté dans le ciel, coupé en deux par Asclépios, le serpentaire. Certaines sources en font Ledon, le dragon qui gardait le jardin des Hespérides. Ce dragon est en lien avec le mythe d'Hercule. En effet, Hercule, après avoir tué sa femme et ses enfants sous l'effet de la magie d'Héra, dut se mettre au service de son cousin, Eurysthée, pour réaliser 10 travaux. Eh oui, 10 travaux à l'origine, alors qu'on parle toujours des 12 travaux d'Hercule. C'est en fait que Eurysthée refusa 2 travaux, l'hydre de Lerne et les écuries d'Augias, car Hercule avait été aidé par Iolas, son neveu. Il rajoute donc 2 travaux, dont une première tâche est de rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ce jardin étant gardé par un dragon. Hercule dut le terrasser avant de voler les pommes. Comme la constellation du serpent n'est pas très loin de celle d'Hercule, cette hypothèse est plausible. Alors, revenons à nos 2 serpents, en commençant par la tête. La tête, proprement dite, est marquée par un faible triangle d'étoiles, quelques degrés au sud de la couronne boréale. Elle est très proche du pied d'Hercule. Le serpent se poursuit ensuite vers le bas du serpentaire, par un alignement assez net entre delta, alpha et eta serpentis, qui se prolonge par delta, epsilon, gamma et nu serpentaire. La limite du serpent sur cet alignement correspond au couple data, epsilon du serpentaire, ce qui représente sa main. Cet alignement se prolonge vers le nord-ouest jusqu'à Arcturus, alpha du bouvier, et vers le sud-ouest jusqu'au Sagittaire. La queue du serpent est beaucoup plus confuse. Il faut traverser le bas du serpentaire, qui représente sa main, et remonter ensuite en parallèle du serpentaire dans la direction d'Altaïr, de la constellation de l'Aigle. La constellation comporte quelques objets intéressants. D'abord un objet de Messier, M5, qui est un amas globulaire situé à peu près à 8 degrés au sud-ouest d'Alpha Serpentis, dans la tête. C'est l'un des plus beaux amas du ciel. Satellite de la Voie lactée, il possède un diamètre de 165 années-lumière. Il a été découvert par l'astronome allemand Gottfried Kirch en 1702. Charles Messier l'a observé le 23 mai 1764 et l'a inscrit à son catalogue comme M5. William Herschel a été le premier à résoudre les étoiles de cet amas globulaire en 1783. Et en 1814, Herschel rapporte avoir observé 200 étoiles dans l'amas dans les nombreuses observations réalisées au cours des années. Un autre objet de Messier se trouve à côté de la queue du serpent, c'est M16, la nébuleuse de l'aigle. C'est une nébuleuse diffuse éclairée par une quinzaine d'étoiles jeunes. C'est une zone de formation stellaire, un peu une pépinière d'étoiles. M16 comporte aussi un amas ouvert qui a été découvert par Jean-Philippe de Chézeau en 1745. Mais Charles Messier ne l'a ajouté à son catalogue qu'en 1764, date à laquelle il découvrit aussi la nébulosité dans laquelle baigne l'amas. C'est donc un objet de double nature, à la fois un amas ouvert avec les jeunes étoiles en formation et une nébuleuse diffuse. William et Caroline Herschel, n'ayant probablement pas découvert immédiatement la double nature de cet objet, les catalogues anglo-saxons ont donné à l'amas ouvert la référence NGC 6611 et ce n'est qu'en 1908 que la nébuleuse reçut la référence IC4703. La première photographie de la nébuleuse, elle a été prise par un certain Barnard. Elle date de 1895. Plus récemment, les images acquises par Hubble en 95, c'est-à-dire 100 ans plus tard, montre que la région nébuleuse de l'Aigle est une pouponnière d'étoiles. En termes plus scientifiques, c'est une région HII, c'est-à-dire c'est une région d'hydrogène ionisé. Ces images spectaculaires resteront parmi les plus médiatisées du télescope spatial et auront marqué le début d'une grande série. Prenons un temps pour parler de ce formidable télescope, en passe de devenir largement obsolète depuis la mise en service du James Webb Télescope. Hubble, dans son nom complet en anglais le Hubble Space Telescope, abrégé HST ou plus rarement en français le TSH, est un télescope spatial conçu par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne. Il est opérationnel depuis 1990. Son miroir, de grande taille, 2,40 m de diamètre, lui permet de restituer des images avec une résolution angulaire inférieure à 1/10 de seconde d'arc. Ce qui veut dire que dans les images produites par Hubble, on peut différencier deux objets distants à 1/10 de seconde d'arc. Hubble possède des imageurs et des spectroscopes dans l'infrarouge proche et dans l'ultraviolet, qui lui permettent de surclasser, pour de nombreux types d'observations, les instruments au sol les plus puissants, qui sont, eux, handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique, telles que la mesure du taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies spirales, ou l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Au travers de plus de 15 000 citations dans des articles scientifiques et de 120 gigaoctets d'images transmises chaque jour vers le sol. Le développement du télescope Hubble, qui tient son nom de l'astronome Edwin Hubble, démarre au début des années 1970. Cependant, des problèmes de financement, de mise au point technique et la destruction de la navette spatiale Challenger repoussent son lancement jusqu'en 1990. Hubble est un impressionnant télescope orbital de 13 mètres de long et de 4 mètres de large, une fois les panneaux déployés. Il est constitué d'une partie optique avec un miroir principal de 2,4 mètres qui a été usiné avec une précision de seulement 10 nanomètres. Derrière cette partie optique se trouvent des instruments scientifiques de la mission. Ces quatre capteurs adaptés à différents domaines de l'astronomie. Hubble voit dans les domaines de fréquences plus importants que l'œil humain. Il voit dans l'infrarouge et jusqu'aux ultraviolets. Ainsi que son pointeur d'étoiles qui lui permet de rester verrouillé sur une cible. Enfin, on y trouve aussi le matériel qui lui permet de se stabiliser, l'ordinateur de bord et enfin de quoi transmettre ses données. Ce très gros télescope de 11 tonnes a pu voir le jour grâce à la contribution de la toute jeune Agence spatiale européenne à la fin des années 70. Il a été amené en orbite le 24 avril 1990 au sein de la large soute de la navette spatiale américaine Discovery. Il entrait en service un mois plus tard. Sauf qu'on s'est rendu compte au moment de sa mise en service que Hubble voit flou. Malgré la précision incroyable utilisée lors de sa fabrication, quelques semaines après la mise en service, les équipes au sol doivent se rendre à l'évidence. Il y a un gros problème. Impossible de faire le point correctement sur les sources de lumière importantes. La présence d'artefacts sur les images. Bref, une grande enquête commence et c'est la catastrophe. Le miroir construit par Perkin Elmer à grands frais est faussé. Il se trouve qu'un instrument de calibration utilisé pour usiner le miroir souffrait d'une erreur. Lors des premiers tests au sol, des résultats inexacts avaient d'ailleurs été montrés. Mais comme l'instrument construit spécifiquement pour le projet était considéré comme le plus précis du monde, c'est la mesure des tests qui a été considérée comme fausse. En 1992, les médias ne se privent pas de parler de Hubble comme un véritable fiasco. Un grand nombre de photographies de l'univers ont pu être prises et elles ne sont pas toutes ratées, mais celles impliquant des sources de lumière distantes sont floues, la faute à 22 micromètres d'erreur. Pire, le miroir de Hubble ne peut pas être changé. C'est la pièce principale. Certains plans évoquent un retour du télescope via la navette, voire la fabrication d'une réplique. Mais les chercheurs vont persévérer, aidés par des équipes d'ingénieurs. On ne peut pas corriger le miroir ? Eh bien très bien, on va annuler l'erreur sur les instruments de mesure. ce qui est réalisé en 1993 lors de la première mission de service pour Hubble. Le capteur principal est remplacé par un autre, incluant la déformation, tandis qu'un instrument appelé le COSTAR utilise deux miroirs secondaires pour supprimer le défaut à destination des autres instruments de Hubble. Ce qui est amusant, c'est d'entendre et de lire que Hubble a été réparé, alors qu'en fait c'est l'inverse. Tous les instruments ont été déréglés pour prendre en compte le défaut et l'annuler. Quatre autres missions, en 97, 99, 2002 et 2009, permettent de remplacer ou d'améliorer quasiment tous les instruments pour qu'ils puissent rester à la pointe des découvertes de l'astrophysique en ce début de 21e siècle. La dernière mission, STS-125, qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu après la catastrophe de Columbia, les navettes ne pouvaient alors se rendre que sur l'ISS, a permis de donner le potentiel maximum au vieillissant télescope en remplaçant notamment ses six roues gyroscopiques qui lui permettent de s'orienter très précisément. Pour économiser leur potentiel, seuls deux sont utilisés à la fois. Ce qui devrait permettre au télescope Hubble de fonctionner quelques années de plus, probablement jusqu'en 2030. Le télescope Hubble est un instrument incroyablement souple d'utilisation. En 30 ans, il a été utilisé pour énormément d'études différentes. Dans notre système solaire, par exemple, il a pu observer quelques astéroïdes proches de la Terre, mais aussi toutes les planètes, sauf Mercure. Les nuages de Jupiter, notamment l'impact avec la comète Shoemaker-Levy. Les lunes de Jupiter, les geysers d'Encelade autour de Saturne, les tempêtes sur Uranus et Neptune. Il a pu découvrir 4 des 5 lunes de Pluton. Hubble est impliqué dans la découverte de la plupart des planètes naines de la ceinture de Kuiper. Mais Hubble, ce sont aussi des images extraordinaires des étoiles voisines, des nuages de gaz, des supernovas, des pouponnières d'étoiles, des galaxies. Grâce au cliché qu'on appelle du champ profond d'Hubble, ce sont des données qui ont été indispensables pour estimer l'âge de l'univers, son expansion, l'action des trous noirs supermassifs, la masse et la taille de la Voie lactée, ou les effets de lentilles gravitationnelles. Et puis, ce sont bien entendu des images dont la saisissante beauté a su inspirer génération après génération des jeunes et des moins jeunes, du plus chevronné scientifique au plus simple observateur. Le remplaçant de Hubble, le James Webb Télescope, a été mis en service à Noël 2021, mis en orbite par Ariane. Il est doté de capacités extraordinaires et a déjà commencé à nous livrer des images époustouflantes dont je vous reparlerai.